Dans nos églises chrétiennes, il y a un sacrement qui semble essentiel, la base peut-être de tout, c'est le baptême. Alors, avant de parler du baptême, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est que un sacrement?
Un sacrement, c'est la mise en œuvre d'un signe visible qui correspond à une réalité invisible. C'est la mise en œuvre d'un commandement de Dieu dans le visible qui correspond à une réalité de Dieu invisible.
Donc, si je comprends bien, en fait, c'est un geste, qui rend visible l'amour, l'intervention de Dieu sur la personne, sur l'homme.
Voilà, le baptême est un sacrement parce qu'il est la manifestation visible de quelque chose d'invisible, c'est-à-dire le baptême, on va le voir tout à l'heure, c'est l'application, le fait qu'on s'applique quand on est immergé dans l'eau, la mort de Christ, oui. Et quand on ressort de l'eau, la résurrection de Christ.
La résurrection, oui. Voilà. Alors, donc, effectivement, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un sacrement, les conditions à remplir pour être baptisé.
On les voit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, où Jésus va dire à ses disciples, verset 20, « Allez, faites disciples, les nations, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant ou les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. » On voit donc qu'il y a ici une chronologie qui est toute simple. Il faut faire disciple. C'est-à-dire, en fait, faire disciple, c'est quelque part faire que quelqu'un mette sa main dans la main de Dieu. Et être disciple, c'est disciple, mandano en grec du Nouveau Testament, c'est celui qui veut apprendre. Mais ce n'est pas celui qui a appris. Hein, c'est celui qui veut apprendre, un disciple. Le disciple, là, c'est cette phase d'apprentissage. Et donc, pour moi, il n'est pas nécessaire d'avoir appris pour être baptisé, mais il est nécessaire d'avoir confessé que Dieu nous a sauvés. Hein, et de confesser que Christ, Jésus-Christ, est le sauveur par lequel Dieu nous a sauvés.
Donc, il faut quand même qu'il y ait une démarche du néophyte, de celui qui veut être baptisé, qu'il exprime sa foi. On ne peut pas lui imposer un baptême s'il n'a pas exprimé sa foi.
Absolument.
Dans certains cas. Hein. On
Absolument.
Verra tout à l'heure un cas plus particulier, effectivement. Donc, prêtre, pasteur, ne peut pas dire « je vais te baptiser parce que je crois que c'est nécessaire, il faut bien ».
Dans une des définitions...
Les excès un peu des missionnaires à une certaine époque.
Dans une des définitions du baptême, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 21, il est dit que le baptême est la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Cette demande, elle est faite par le baptisé.
Par le baptisé. Mais à mon avis, au préalable, il faut quand même qu'on lui en ait parlé.
C'est ça. C'est pour ça qu'entre le baptisé et le baptiseur, il y a non seulement des dialogues, mais des responsabilités. Le baptiseur a une responsabilité à l'égard du baptisé.
Alors, quel va être le... Bon, on verra ça dans le détail. Quel est le but, disons, du baptême?
Je dirais que un des buts, peut-être, ou le but qui me paraît le plus essentiel, c'est le fait, à un moment donné, de marquer par une étape importante dans ma vie la réalité de ce que Dieu a fait pour moi.
On reconnaît donc la présence de Dieu en soi.
C'est ça, on reconnaît l'œuvre que Dieu a faite, dont sa présence en nous. Hein. C'est-à-dire, je reconnais que j'étais perdu sans lui, et je reconnais que je suis retrouvé avec lui.
Bien sûr, oui, hein? Oui.
Je reconnais que j'étais embarrassé avec ma vie, avec mes fautes, avec mes erreurs, avec mes errements. Et je reconnais que maintenant les choses ont changé, parce que finalement, je suis quelqu'un de différent maintenant que la grâce de Dieu m'a touché.
Oui, et en fait, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et par contre, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on voit l'élément essentiel qu'est le baptême.
Oui.
Pourtant, c'est la foi qui sauve, et c'est pas le baptême en lui-même.
Oui, donc dans ce passage de la fin de l'évangile de Marc, hein, chapitre 16, il est dit...
16.
Celui qui croira, qui aura cru et qui aura été baptisé, sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Donc ce qui est essentiel, c'est de croire.
Voilà, oui, bien sûr.
Hein,
oui.
Voilà. Mmh. Parce que vous avez dit le baptême. Hein, donc ce qui est essentiel, c'est de croire, mais...
c'est la foi.
C'est ça, c'est la foi. Donc en fait, le baptême est logiquement ce qui vient après la foi, mais... Pour celui qui est condamné, c'est pas parce qu'il n'est pas baptisé qu'il est condamné.
C'est parce qu'il n'a pas cru.
Mmh. Hein, voilà.
Mais le baptême n'est pas quand même indispensable au salut. C'est le cas du brigand qui était à côté de Jésus sur le calvaire.
Voilà.
Qui dit ce soir, tu seras près de moi.
Avec moi.
Au paradis. Donc lui, il n'a pas été baptisé.
Non.
Donc c'est sa foi qui l'a sauvé. Alors on peut se dire, mais pourquoi être baptisé puisque la foi suffit.
Eh bien, c'est un peu comme si Jésus nous disait, alors tu as foi en moi, mais prie-moi. On va dire, mais pourquoi est-ce que tu veux que je te prie? Parce que la foi suffit. Voilà, mais la prière, c'est la matérialisation de ma relation avec lui. Et le baptême, c'est, si la prière, c'est la matérialisation de tous les jours, le baptême, c'est la matérialisation une fois.
Oui.
Et la Sainte Cène, l'Eucharistie, c'est la matérialisation une fois par semaine, on va dire, ou plus pour ceux qui le font plus. Mais une fois par jour, par exemple, pour ceux qui le font tous les jours.
Oui, bien sûr, oui. Donc, en fait, moi, je pense que le baptême, c'est un signe, effectivement, on l'a dit dès le départ, hein, qui va nous amener, et bien sûr, lorsqu'on l'a reçu, qui va nous ouvrir peut-être à la connaissance spirituelle, d'une part, et qui va nous amener à un changement nécessaire. Parce que je ne peux pas être baptisé si rien ne change dans ma vie. C'est l'engagement, en fait.
Ce qui a changé dans ma vie, c'est... que j'ai compris que de la même manière que quand j'ouvre les volets, la lumière rentre, quand je m'ouvre à Dieu, Dieu rentre. Et donc ça, c'est un changement, je dirais, constitutif de mon être, dans ses organes profonds. Ce qui a changé, c'est que Dieu, maintenant, vit en moi. Après, si je n'ai pas changé dans mes comportements, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui me pousse à attendre d'être baptisé. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être bien pour être baptisé. Ce qu'il faut pour être baptisé, c'est avoir compris ce que Dieu a fait pour moi, et après d'être dans le progrès du disciple.
Oui, donc le moment du baptême se fait justement quand, je voulais le dire, quand j'ai bien compris ce que Dieu a fait pour moi.
C'est ça.
C'est à ce moment-là, donc on fait peut-être la demande, ou à moins qu'on soit en relation déjà dans son église et qu'ils savent que c'est le moment, et ça se décide à ce moment-là, alors.
Oui.
Et donc, ça va, donc, il y aura plusieurs sortes de baptêmes. On voit aussi dans la Bible, effectivement, il y a le baptême de l'eau, il y a le baptême de l'esprit, le baptême de feu. Donc, ça peut être un peu aussi compliqué, ça. Et donc... À partir de quel moment d'abord a été institué, on va faire un peu l'historique quand même du baptême, pour voir un peu les différentes sortes de baptêmes, ce baptême a-t-il été institué? Est-ce qu'il s'est existé déjà avant, disons, Jean-Baptiste?
Non. Non, non. Le avant, c'était ce que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, appelle les ablutions. Mmh. On était, soit on prenait sa douche, soit on prenait un bain. Hein, on était immergé, mais ce n'était pas un baptême... C'était un baptême rituel, mais ce n'était pas un baptême qui avait la force du baptême unique et solennel de Jean-Baptiste.
Mmh. Oui, en fait, c'était peut-être aussi pour s'approcher peut-être du temple, c'était de se laver, se faire propre, au sens figuré, enlever toute souillure. C'était peut-être plutôt matériel.
C'est ça.
Hein, avoir les mains propres, avant de passer à table, vous lavez les mains.
Voilà.
Ça avait cette signification.
Voilà. C'était matériel et spirituel, mais c'était journalier et ordinaire. Voilà. Mmh. Oui, tout à fait.
Alors voilà qu'effectivement, Jean-Baptiste se met baptisé dans les eaux du Jourdain. Alors quelle est la signification?
La signification du baptême de Jean-Baptiste est donnée en acte 19 et au verset 4, où Paul arrive... comme il est dit dans le texte, vers les contrées supérieures, vers Éphèse, et il rencontre des gens qui sont des croyants, hein, et il leur pose la question, il leur demande, de manière pour nous peut-être un peu curieuse, si on avait quelqu'un qui leur demandait ça, s'ils ont reçu l'Esprit Saint, après avoir cru. Et alors, ces gens-là lui répondent, mais verset 2, voilà, verset 3, non, verset 2, nous ne savons même pas si l'Esprit Saint est. Ils n'ont pas entendu parler de l'Esprit Saint. Alors, il leur demande s'ils ont été baptisés. Et eux, au verset 3, disent, oui, on a été baptisés du baptême de Jean. Donc, c'est des gens qui ont été baptisés, mettons, pour ou vers le judaïsme. Et Paul va leur répondre au verset 4, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il croit en celui qui venait après lui, donc après Jean, c'est-à-dire en Jésus. Donc le baptême de Jean-Baptiste est un baptême collectif. Ce n'est pas un baptême individuel. Ce n'est pas un baptême où moi je vais régler quelque chose personnellement devant Dieu. C'est un baptême collectif où le peuple d'Israël va dire « Oui, effectivement, nous, le peuple d'Israël, nous avons failli à notre mission collective de peuple d'Israël, et ça fait environ, depuis 600 ans, hein, mais plus de 600 ans, qu'il n'y a plus de roi en Israël, et que, comme le dit Ézéchiel, la gloire de Dieu est partie du temple. Donc, le peuple d'Israël a failli de sa mission, et le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême collectif du peuple d'Israël, d'ailleurs, auquel Jésus participe.
Oui, oui.
Ce qui montre bien que ce n'est pas un baptême individuel, parce que si Jésus devait se repentir, on ne comprendrait plus rien.
Totalement, oui, oui. Donc, en fait, c'est le péché collectif de tout Israël que chacun va reconnaître quand même en rentrant dans l'eau de Jourdain lorsqu'il a affaire à Jean-Baptiste.
C'est ça.
Mais, en fait, il est clair et net que le baptême de Jean-Baptiste ne peut pas sauver, même si on est là-bas, puisque le Christ n'est pas encore mort, donc il n'y a pas eu la résurrection, la justification par le sacrifice de Jésus. Donc, déjà, on ne peut pas imaginer que le baptême donc de Jean-Baptiste soit un baptême effectivement très, je ne sais pas dire valable, mais enfin disons identique à celui qui suivra.
Si on parle de collectivité et d'individualité, il me semble qu'on comprend mieux, mais on va en parler après la musique. Alors, collectivité et individualité, eh bien, le baptême de Jean-Baptiste est un baptême collectif, c'est-à-dire que le salut ou la délivrance était la délivrance du peuple. C'est-à-dire que le peuple était amené à recevoir son roi, et donc le baptême de Jean-Baptiste devait déboucher sur le fait que le peuple reconnaisse son Messie, et que le Messie soit là, et de ce fait que tout aille bien. Et si le peuple avait reconnu son Messie, Jésus-Christ n'aurait pas été crucifié.
Bien sûr.
Et donc Dieu aurait fait connaître son pardon, certainement, par d'autres moyens. Mmh. Et ça, c'est pas passé, donc on ne peut pas dire si.
Bien sûr.
Mais le projet politique de Dieu, le projet que Dieu vienne vers un peuple pour la bénédiction des nations, et Israël jouant son rôle d'ambassadeur, est un projet qui est avant le projet individuel. Où finalement, dans le projet politique, Dieu nous demande de nous organiser ensemble, et Dieu nous demande de finalement de vivre en tant que nation, et il a donné aux nations l'exemple d'Abraham. Mais c'est par la chute du projet collectif que Dieu vient régler la question individuelle. C'est un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, en fait, on va voir si justement j'ai bien compris, par le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste demande au peuple de reconnaître collectivement qu'ils ont failli et que, une fois qu'ils le connaissent, donc il y a repentance et qu'ils soient prêts à accueillir et on repart à zéro.
Et voilà.
Et que le Messie va arriver et que maintenant il faudrait peut-être réfléchir, ouvrir les yeux et les oreilles.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Donc on est prêt à recevoir le Christ. Alors, le problème qu'on se pose souvent dans le public, hein, mais enfin, pourquoi Jésus-Christ est-il fait baptiser? Il n'était sans péché, on sait qu'il est, il est l'amour. Est-ce qu'il prend les péchés de l'humanité et, sur lui? Et lorsqu'il demande ce baptême à Jean-Baptiste, qui ne veut pas d'ailleurs, qui refuse, il dit non, pas toi, moi je ne peux pas, je suis indigne, il sait qui il est, hein, en dehors d'être son cousin, il sait qu'il est quand même le Messie. Donc, il y a un petit problème là quand même sur le baptême de Jésus.
Et Jésus lui répond en disant, laisse, et il lui dit, il est laisse faire maintenant, car il nous est convenable d'accomplir toute justice. Donc c'est juste que Jésus soit baptisé, mais Jésus n'est pas baptisé au titre de la personne, au titre individuel.
Donc collectivement,
mais il est baptisé
aussi.
Avec le peuple.
Avec le peuple. Donc c'est là qu'on dit qu'effectivement, donc, c'est presque une nouvelle incarnation. Là.
Et
il est du peuple.
Et d'ailleurs, lui étant dans le peuple, c'est à ce moment-là qu'il y a l'Esprit de Dieu qui descend sur lui comme une colombe. Et pourquoi ? Pour le désigner, Christ. Pour le désigner, non pas fils de Dieu, mais pour le désigner celui qui va régner.
Celui qui, comme Messie.
C'est-à-dire qu'il est le Messie pour le peuple.
Pour le peuple.
Et donc, c'est dans cette situation de repentance collective du peuple que, Jésus étant là, qu'il apparaît à tout le peuple, à tous ceux qui sont là, que lui est désigné pour être Messie.
Donc, le baptême du Christ, on peut dire que c'est une intégration dans son propre peuple. Et en fait, ça va être quand même l'occasion, justement, va se dérouler une théophanie, et effectivement, et c'est là que la colombe va venir sur lui et qui va être désigné, donc, effectivement, comme le Messie. Et est-ce que Jean-Baptiste, je pense, l'entend ou le voit? Mais est-ce que le peuple qui était là, parce qu'ils étaient nombreux au bord du Jourdain, est-ce que, disons, ils ont vu cette colombe, le ciel s'ouvrir, la colombe, et entendu Dieu?
C'est ce que raconte finalement le texte. Hein. Jésus, il vient auprès de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens. Et la colombe descend, Jean-Baptiste voit l'Esprit de Dieu descendre, et il me semble que les autres, logiquement, devraient aussi l'avoir vu, mais là, ce détail-là n'est pas dit.
N'est pas dit, bon. Alors, on peut quand même peut-être continuer, effectivement. Donc, le vrai, il y a un autre baptême, effectivement, qui va apparaître, hein, celui de l'Esprit, celui du feu aussi, bien sûr. Mais je voudrais faire un petit rappel, c'est que, par exemple, sur la croix, quand le centurion donne un coup de lance, disons, dans le côté de Jésus, il en sort de l'eau et du sang. Et on prend ça. On peut interpréter cet écoulement d'eau et de sang comme l'eau du baptême dont le Christ a apporté le vrai baptême, puisqu'il y a aussi le sang qui est celui du sacrifice.
C'est peut-être pas inutile, en allant dans ce sens-là, de rappeler que baptême, ça vient en grec de baptizo, qui veut dire immerger. Mmh. Et donc, l'immersion dans l'eau était un rite de purification. Et donc, quand il est dit dans le récit évangélique que du côté de Christ est sorti de l'eau et du sang, l'eau, elle a un sens de purification, et le sang, un sens de propitiation ou de justification, c'est-à-dire d'expiation par le sang. Tout à fait. Et donc, il y a quelque chose qui est essentiel dans ce détail. Oui,
oui. Donc, on voit l'importance de l'eau dans le baptême. Donc effectivement, l'eau, elle lave, elle purifie, mais elle fertilise aussi la terre pour que la plante puisse pousser, elle féconde aussi, hein, effectivement, et elle désaltère. Donc j'allais dire que l'eau n'est pas innocente. L'eau est un élément essentiel pour le baptême. C'est pour ça qu'on va le retrouver tout à l'heure dans le rite du baptême. Alors cet élément important... Ça apporte la vie, donc l'eau. C'est ce que veut dire, effectivement, Jean-Baptiste, Attention, il faut que vous soyez prêts à recevoir le Messie. Donc, ça apporte la vie, puisque le Messie, le Christ, va apporter la vie. Et donc, ça aussi, j'insiste, implique quand même une conversion. Je pense que les Juifs, même si c'est un baptême, disons, collectif, devaient quand même, disons, il faut qu'ils aplanissent le chemin pour que le Messie vienne. Donc, il faut quand même qu'ils se convertissent. La repentance, c'est pas dire oui, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Il faut qu'à partir de là, il change de vie quand même.
Alors je me demande si en Israël, dans la conscience collective, s'il y a vraiment des gens qui sont ouvertement non-croyants. Aujourd'hui, on est héritier des Lumières, de la réflexion personnelle, de la liberté de penser, de la liberté religieuse, de la liberté de l'athéisme, etc. Il me semble qu'à l'époque, les choses sont sûrement un peu différentes, où Israël, c'est vraiment le pays monothéiste dans le monde païen, qui est peut-être polythéiste, mais qui est affreux de manière générale. Je crois que il faut voir... que le juif est quelqu'un de croyant, mais que dans son comportement, il peut mal faire. Et donc, je crois que quand il participe au baptême de Jean, c'est plutôt un acte politique qu'un acte individuel. C'est un acte politique dans le sens de police, la ville ou le pays, hein, la nation. C'est un acte qui l'engage par rapport à Israël en disant « Oui, je veux que le règne de Christ vienne. »
Voilà. Oui, d'accord, bien sûr. Oui, ça correspond à la notion de baptême collectif.
C'est ça.
Oui. Alors, quand Jean-Baptiste annonce un baptême qui a un autre baptême, c'est le baptême de l'Esprit, dont lui est inspiré. Effectivement, c'est un prophète quand même, peut-être le dernier prophète. Hein. Donc, dans ce cas, ça veut dire quoi pour eux? Les gens qui sont là, qui entendent dire, ah bon, d'accord, il y a eu le baptême d'eau de repentance, on est d'accord, on a mal fait, on attend, on est prêt à recevoir, disons, un Messie pour notre pays, mais le baptême de l'Esprit, pour eux, comment ça peut leur parler?
On le voit au chapitre 3 de l'Évangile selon Matthieu, et on le voit juste avant que Jésus vienne pour être baptisé. Et Jean-Baptiste voit au verset 7 des pharisiens, des sadducéens. Il y a donc toutes sortes de personnes qui viennent. Par ailleurs, on voit que les gens de l'armée lui posent des questions, les gens qui travaillent, les gens qui sont salariés, etc. Et à cette occasion, il va leur dire, « Moi, verset 11, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Je ne suis pas digne de porter ses sandales, et lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Et il a son vent, c'est-à-dire son bâton, dans la main, et il nettoiera entièrement son air, et assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible.
Oui.
Donc ici, il y a deux baptêmes qui sont annoncés.
L'Esprit et le feu.
L'Esprit et le feu. Le baptême de l'Esprit, c'est ce qui s'est produit, il me semble, à la Pentecôte. C'est-à-dire que grâce à l'œuvre de Christ, alors on voit ça en acte 2, verset 33, Christ, avec l'ascension étant monté, alors il répand l'Esprit Saint, comme si la présence spirituelle de Dieu est toujours là. Oui. Quand Christ monte, alors l'Esprit Saint descend.
Bien sûr.
Et,
il faut qu'il domine, en fait.
C'est ça, il est au-dessus de nous pour notre bien. À la Pentecôte, il y a la descente de l'Esprit de Dieu, ce qui veut dire que certainement, nous avons, nous, aujourd'hui, une relation à l'Esprit de Dieu qui est fondamentalement différente de celle qu'il y avait avant la Pentecôte. Nous avons une connaissance des choses, nous avons une conviction intérieure, une capacité de discerner la volonté de Dieu qui doit être différente de celle qui était avant. Voilà déjà quelque chose pour le baptême de l'Esprit.
Donc c'est la Pentecôte.
Et la définition du baptême de l'Esprit est en 1 Corinthiens 12, 13, où il est dit « Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. » La vocation du baptême de l'Esprit, voyez mes bras, c'est de réunir.
Bien sûr.
Et nous avons en commun l'Esprit de Dieu, et nous avons à voir comment est-ce que cette communion peut se vivre dans le cadre de la communauté.
Oui.
Voilà, le baptême de l'esprit. Et le baptême de l'esprit n'est pas une expérience postérieure à celle de la foi, mais c'est logiquement ce qui se passe quand on a la foi.
Bien
Alors
sûr.
Paul disait en Acte 19, est-ce que vous avez reçu l'esprit quand vous avez cru? Alors ils disent, mais c'est quoi l'esprit, en fait, hein? Et donc nous comprenons que l'esprit nous conduit dans la vérité de Dieu et dans une connaissance commune aussi, et dans une démarche commune qu'on a peu de peine à trouver parce que justement l'esprit de Dieu nous conduit. Mais le baptême de feu, alors c'est
Alors, c'est pour plus tard, ça.
quelque chose qui s'est produit à la Pentecôte aussi.
Ah,
Ce
oui, c'est
sont les
vrai qu'il y a
langues
eu
de feu.
les langues de feu, oui.
C'est-à-dire, dans le même événement, Christ a donné l'Esprit à l'Église et Christ a montré à Israël que c'était un jugement, c'est le feu,
Oui, le feu, c'est un
que
jugement.
pour un moment, alors Israël n'est plus le serviteur de Dieu. Hein? C'est-à-dire que le baptême collectif de Jean-Baptiste, qui devait conduire à l'aboutissement du service d'Israël, finalement, conduit à un échec, puisque les chefs juifs, religieux, etc., livrent Christ pour être crucifié, donc c'est un échec. Et donc les langues de feu sont la manifestation de l'échec dans le sens où Israël est mis de côté.
Sur le baptême de feu, donc à Pentecôte, il annonce que Israël n'est plus le peuple de Dieu. Il n'a pas reconnu le Christ, donc il y a rupture
Provisoire.
provisoire, hein. Mais en fait, d'une façon générale aussi, peut-être que le feu annonce toujours un jugement et ce sera évidemment pour le jour du Seigneur, un jugement final et définitif. Non, le feu est une anticipation du jugement. Avec l'idée du retour du Christ, non?
Alors, c'est vrai qu'il y aura un jugement dernier, mais à mon sens, ce jugement dernier n'est pas annoncé dans les paroles de Jean-Baptiste. À mon sens, hein. Après,
Non,
c'est-à-dire
c'est
que.
sur le terme baptême de feu.
Alors, pour moi, le baptême de feu,
C'est
c'est
sur la Pentecôte.
ce qui va se passer à l'égard des juifs croyants, fidèles, qui vont recevoir l'Esprit, et des juifs infidèles, qui eux, vers qui sera adressée une parole de jugement. Voilà. Hein, Jean-Baptiste est là, le dernier prophète, finalement, pour clore la première partie des relations de Dieu avec Israël, et il donne un message d'ouverture, qui est de dire aux juifs croyants, maintenant, venez constituer l'Église.
Bien sûr,
Et
oui.
il dit aux juifs infidèles, vous êtes réservés comme la balle du froment qui passe au feu, et il dit inextinguible. C'est-à-dire que vous avez raté quelque chose. Donc vous avez raison de dire qu'il y a un rapport au jugement dernier, mais si vous voulez, c'est ce qui va se passer à la Pentecôte quand, pas le
Oui,
jugement dernier, hein,
non, non, mais
c'est l'action
toujours,
qui se passera à la Pentecôte quand finalement il sera clair et signifié qu'Israël n'est plus provisoirement le peuple de Dieu comme serviteur.
Alors, est-ce que Jésus a baptisé? À un moment donné, je crois que dans Jean 3 et 1, versets 22-26, on dit que Jésus, disons, baptise. Mais plus loin, et là, excusez-moi, j'ai pas le verset, il semblerait que Jean se reprenne et dise, il y avait Jésus et les disciples baptisés.
Oui,
Alors, est-ce que Jésus a baptisé ou pas?
oui, mais Jésus a baptisé du baptême de Jean.
Ah oui, d'accord.
Hein, Jésus, puisqu'il n'était pas encore, comme vous l'avez dit, mort
oui,
et ressuscité,
ah, oui, oui,
il
oui.
baptisait du baptême collectif pour le peuple d'Israël.
Il a continué l'œuvre de Jean-Baptiste.
Et les disciples de Jésus, on le voit au chapitre 10 de Matthieu, par exemple, prêchaient la repentance, mais prêchaient le royaume,
voilà,
et oui. disaient « Repentez-vous pour que le royaume puisse être là.
» Oui, évidemment, le Christ n'est pas mort, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne pouvait pas y avoir, évidemment, un baptême d'esprit et une justification apportée. Alors, il se pose des problèmes, effectivement, donc, pour le baptême, est-ce que des adultes, là, on vient d'une question plutôt pratique, hein, et des adultes, il y a une préparation des catéchumènes adultes qui est, comment ça se passe dans votre église?
Alors,
quelqu'un qui a la foi et qui demande à être baptisé.
C'est quelque chose d'assez court et qui touche assez essentiellement à la signification du baptême. La préparation au baptême est une préparation finalement qui va reprendre les éléments du baptême. Par exemple, on pourrait en retenir 5. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, il dit que le baptême est un signe de mort.
Oui, d'accord.
Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, il dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, il dit que le baptême est un signe de mort et de résurrection. Dans l'Épître aux Galates, il est dit que le baptême, être baptisé, c'est revêtir Christ. Et dans 1 Pierre 3, il est dit que le baptême est une demande à Dieu. Donc la préparation au baptême pourrait être une réflexion sur ces points, qui sont quand même riches, qui sont différents, avec la mort, la résurrection, ce moment unique du baptême. On n'est pas rebaptisé puisqu'il n'y en a qu'un de baptême. Donc si on a déjà été baptisé, on n'est pas rebaptisé.
Voilà.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire revêtir Christ? Et en quoi est-ce qu'on peut demander, par la résurrection de Christ, comme dit 1 Pierre 3, 21, une bonne conscience? Donc tout ça demande un peu à être expliqué, et c'est ça la préparation au baptême.
Mais ça se déroule en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois?
En quelques jours.
En quelques jours.
Oui.
C'est une formation accélérée, je dirais.
Alors, de toute façon, ça dépend des gens,
dépend des gens qui forment. Il faut s'adapter.
Mais Jésus a bien dit en Matthieu 28, hein, on l'a lu en préambule, il dit, allez, Matthieu 28, 19 et 20, allez, faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à garder toutes les choses que vous avez commandées. Donc l'enseignement vient après le baptême.
Oui, ah oui, bien après.
Hein, on fait disciple.
Oui, c'est vrai.
Hein, voilà.
Oui.
Donc logiquement, le baptisé, le baptême est là au début de la vie d'adulte.
Oui. Alors, chrétien. Pour l'Église catholique, ben, écoutez, il y a l'enseignement, mais qui est très organisé, effectivement, et qui va se dérouler sur plusieurs semaines. Et en général, c'est pendant la période de carême, parce que nos catéchumènes sont baptisés le jour de Pâques. Alors, il y a les 5 semaines qui précèdent évidemment Pâques, où chaque dimanche, il y a publiquement, dans la communauté, un acte des catéchumènes. Alors, la première fois, bon, bien sûr, ils vont pouvoir, disons, demander à entrer en catéchumène. Ils disent, bon, voilà, je veux être baptisé. Alors, on dit oui. La communauté répond bien sûr que oui. Et puis, il y a aussi l'appel de l'évêque qui prend tous les catéchumènes, disons, du diocèse et qui leur dit, bon ben voilà, on vous rassemble pour entrer dans l'église. Ça, c'est une cérémonie qui se fait donc à la cathédrale. Puis après, encore le dimanche suivant, il y a une remise de la croix. Pourtant, c'est le Christ à suivre, de l'évangile, l'importance de la parole. Et puis on présente donc, bien entendu, donc ces catéchumènes au peuple chrétien, bien sûr. Et puis il y a le baptême. Alors le baptême est suivi de l'Eucharistie, puisque ce sont des adultes, il n'y a pas de problème. Et puis parfois, évidemment, il y a la confirmation, parce qu'il y a un autre sacrement pour les catholiques, où ils confirment leur engagement. C'est ça, et alors évidemment, ils ont découvert entre-temps quand même le credo et le père chaque dimanche, et ainsi de suite. Alors ça, c'est, disons, le schéma, disons, un peu simplifié pour les catholiques adultes, qui semble évidemment se développer, Mais ça, je trouve que c'est peut-être un problème de foi où la population s'éveille, mais je pense aussi que les enfants sont de moins en moins baptisés, et donc on les retrouve plus tard. Parce que nous avons évidemment le baptême des enfants. Et ça, dans vos églises réformées, je crois que vous ne l'avez pas.
Ah, si, si.
Ah, si ?
Si, si, oui.
Ah oui ? Des bébés, vous les baptisez aussi ?
Alors,
Ah, mais je croyais que non, voyez.
Oui, oui. Alors, la question du baptême des enfants est assez fondamentale dans ce qu'on appelle l'Église réformée, hein, qui s'appelle maintenant d'ailleurs Église protestante unie. On est en général baptisé enfant. Mais dans une partie évangélique du protestantisme, comme avec les baptistes, on est baptisé adulte. Personnellement, il n'y a dans le Nouveau Testament, et notamment dans les Actes et les Épîtres, aucune place pour le baptême des enfants. Mais je compte bien sur vous pour me pousser dans mes retranchements et pour me faire montrer et dire que je me trompe. Voilà. Alors, pour moi, je vois le baptême comme une réalité et qui est montrée par cinq positions différentes, des positions doctrinales, cinq compréhensions différentes, mais la même réalité. Hein, dans Romains 6, versets 1 à 4, il est dit que nous qui sommes baptisés, nous sommes baptisés pour la mort de Christ. Donc le baptême est un signe de mort. C'est-à-dire que quand je demande à être baptisé, je comprends que Dieu a fait mourir le vieux Guillaume.
Mmh.
Et donc que le vieux Guillaume, il est mort à la croix avec Christ. Et donc, que de ce fait, je n'ai pas à m'occuper du vieux Guillaume, il est mort. C'est-à-dire que celui que Dieu condamnait, il est mort. Et c'est pour ça que Romains 8, verset 1, dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est dans le Christ Jésus.
Voilà. Alors, est-ce que je peux vous arrêter tout de suite, hein? Si le vieux Guillaume était mort en Belgique, c'est-à-dire bébé, le reste serait le même.
Il serait mort avant l'âge de raison. Et donc, il y a un moment à l'âge de raison où, justement, on a une décision personnelle à prendre et où on fait quelque chose de personnel. Et après, si on n'est pas baptisé, comme vous l'avez lu dans Marc 16, c'est pas gênant. Parce que celui qui aura cru,
oui.
Hein, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Mais je pense que le baptême est pour celui qui a cru. Alors, dans Romains 6, on a vu que c'est un signe de mort. Ensuite, il y a si on prend les épîtres dans l'ordre, il y a Galates 3, 27, en disant « Nous tous ou vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. » Revêtir Christ, comme on revêt un vêtement, le vêtement exprime chose. Et revêtir, c'est justement montrer une qualité de quelque chose qu'on a choisi. Hein, la couleur, le tissu, la forme, etc. Eh bien, revêtir Christ, c'est s'impliquer personnellement dans la chose que je vais prendre. Là aussi, je ne peux pas être enfant dans cette perspective-là. Troisième chose, dans Éphésiens 4, verset 4, il est dit, il y a un seul baptême. Bon, là, il n'est pas question de l'enfant ou de l'adulte. Dans Colossiens 2, verset 13, je crois, il est dit que celui qui a été baptisé pour sa mort et pour sa résurrection. Et donc là, il y a un signe de résurrection. C'est-à-dire que quand je ressors de l'eau, je crois que, quelque part, je suis ressuscité. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de vie en moi, qui est la puissance de Dieu, et qui m'amène à voir différemment, à avoir de la puissance, à avoir de la consolation, à avoir quelque chose qui est essentiel pour ma vie. Là aussi, je ne vois pas comment l'enfant peut envisager de l'être. Et puis, la cinquième chose dans 1 Pierre 3, 21, c'est que c'est la demande à Dieu d'une bonne conscience. Et l'enfant, justement, par définition, avant la puberté, n'a pas la conscience des choses.
Je peux me baser peut-être sur un verset des Actes 16, verset 15, où il est dit « Et sur le champ, il fut baptisé, lui et tous les siens. » Bon, dans tous les siens, ça peut être des adultes, des hommes libres, des femmes ou des esclaves, mais aussi peut-être des enfants. Donc, moi, je pense que les disciples ont pu baptiser, effectivement, donc, disons, des enfants. Quand je dis moi, c'est toute l'Église catholique, pardonnez-moi, bien sûr. Alors, en fait, après, quand même, on voit l'attitude de Jésus vis-à-vis des enfants. Il a dit quand même, laissez venir à moi les petits-enfants. Il les a bénis, hein, à plusieurs occasions, il les a pris même sur ses genoux. Donc l'enfant n'a pas été rejeté, hein, effectivement. Alors, et bien sûr, souvent, je reprends effectivement un peu l'idée, disons, de notre Église catholique, eh bien, dans la population, peut-être, on a peut-être aussi pris le baptême un peu comme une superstition. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver, donc ils veulent le faire baptiser. Mais ça, je l'élimine totalement. Mais enfin, je vous le dis parce que, à la base, on peut l'avoir entendu. Mais c'est un acte aussi d'espérance. Moi, je baptise, on fait baptiser l'enfant parce qu'on espère qu'il va être effectivement, quand même, donc, dans l'amour de Dieu. C'est un acte de foi de la part des parents. Et ensuite, on peut dire que les parents s'engagent, et effectivement, théoriquement. Ils s'engagent. Lorsqu'ils font baptiser un enfant, c'est qu'ils veulent non seulement le faire entrer dans la communauté, hein, il fait parler de la communauté, mais ils ont des devoirs par cet acte. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à baptiser, disons, des jeunes enfants. Et donc, c'est une appartenance à cette communauté chrétienne. Ils ne sont pas laissés de côté, comme pour avoir l'impression. Alors, du côté pratique, il se peut aussi, je suis honnête, que l'Église catholique, dans le temps, il y a très longtemps, souhaitait baptiser les enfants, parce que ça permettait de dénombrer peut-être le nombre de catholiques, hein, peut-être qu'il y avait cet aspect aussi pratique. Mais pour en revenir, et sincèrement, je pense que c'est faire entrer l'enfant avec un signe d'espérance, on va pouvoir effectivement l'amener vers le Christ, et les parents s'engagent à effectivement donc à mener cet enfant dans l'Église et jusqu'au Christ. Je pense que c'est comme argument, c'est tout ce que je pourrais vous dire, c'est avec conviction que je vous le dis.
Derrière cet argument, il y a des présupposés qui sont...
C'est un acte de foi.
Qu'on a le droit d'avoir, mais qui ne sont pas... dans le bagage biblique, si vous voulez. Présupposer, c'est que le baptême communique une faveur. Le baptême ne communique pas de faveur. Le baptême, c'est l'expérience de quelqu'un qui a cru et qui marque une étape avec Dieu. Donc le baptême ne communique pas de faveur. Le baptême, c'est voilà, quelque chose qui est fait et dans lequel on a beaucoup de joie, mais ça doit être fait par la personne qui croit. Ensuite,
oui, attendez,
ensuite on va continuer.
Hein. On n'a pas fini. Alors, je voudrais essayer encore de vous apporter des arguments, mais je suis persuadé qu'au départ, que je n'arriverai pas à vous convaincre. Hein, mais vous avez des enfants, vous êtes père de famille.
Oui, j'en ai quatre.
Oui, donc vous les avez fait, disons, vacciner, peut-être, contre les maladies. Et puis, quand ils ont été de l'âge d'aller à l'école, vous les avez inscrits à l'école. Vous ne leur avez pas dit, on verra plus tard, tu feras ce que tu voudras, tu te seras vacciné ou tu iras à l'école, apprendras à lire ou pas.
Oui.
Vous avez pris la responsabilité.
Mais le baptême n'est pas un vaccin, cher monsieur.
Mais non, c'est pas un
le
vaccin.
Baptême, non, mais
c'est un support.
C'est
il est élevé dans la
mais
foi
c'est pas un
chrétienne.
Deuxièmement,
mais c'est un but, c'est pour y arriver.
Très bien, très bien. Mais ça, ce sont des belles paroles, mais ce sont des paroles que vous pensez, mais qui ne sont pas dans la Bible. Alors à chacun d'être d'accord, de dire je le fais ou je le fais pas. Après, moi, je ne juge pas ceux qui font baptiser leurs enfants.
Non,
mais quand on m'a demandé de baptiser un enfant, j'ai dit non. Et donc, deuxièmement, vous supposez aussi que le baptême introduit dans l'Église. Mais le baptême n'introduit pas dans l'Église.
Dans le baptême, communauté.
Mais le baptême n'introduit pas dans la communauté. C'est le langage des protestants et des catholiques. Donc, je vous mets à l'aise. Mais le baptême n'introduit pas dans l'Église. Ce n'est jamais dit que le baptême introduit dans l'Église. Le baptême de l'Esprit, 1 Corinthiens 12, 13... vous avez tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Donc le baptême de l'esprit, oui, mais le baptême de l'esprit, c'est ce qui se produit à la conversion. Mais le baptême d'eau, c'est une étape qui est vécue par le croyant et que une étape riche, une étape très 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 importante. Mais le baptême ne n'introduit pas dans une communauté.
Bon, moi, je voyais ça comme un acte de foi, d'une part. Mais si je continue, il existe un autre sacrement dans l'Église catholique qu'on appelle la confirmation. Donc, quand l'enfant arrive vers la préadolescence, où il commence à comprendre, effectivement, on va lui demander de renouveler ses promesses de baptême qui a été faites par l'intermédiaire de ses parents. Mais entre-temps, évidemment, il y a l'éducation à la foi. Et donc on prend plusieurs années, on appelle ça en langage courant le catéchisme, où régulièrement donc, les enfants apprennent à découvrir effectivement donc, l'Évangile, la Bible, Dieu et les sacrements. Donc là, ça peut peut-être vous rassurer. Nos petits chrétiens baptisés, une fois adolescents, c'est le moment le plus important, ils disent oui ou ils disent non. Parce que moi, dans l'expérience aussi et dans mon entourage, j'ai vu des gens qui disent « on ne va pas baptiser notre gamin, il n'est pas conscient, on ne va pas s'engager pour lui, on verra plus tard. » Et plus tard, on n'a rien vu.
Hein? Alors, mais j'ai quatre enfants.
Vous allez me dire que moi aussi, les enfants qui sont baptisés peuvent ensuite même passer la confirmation et ne pas se conduire comme des chrétiens. Mais bon, mais ça, ça remet à Dieu. Hein?
J'ai quatre enfants et mes trois premiers enfants ont demandé à être baptisés vers l'âge de 18 ans. De 18 ans.
Ah, de 18 ans. Donc là, j'étais mûr, effectivement. Mais oui. Et le quatrième ?
Elle a 13 ans.
Ah. Bon, je ne sais pas, mais c'est la position actuelle de l'Église catholique.
D'accord.
C'est-à-dire que la foi qui sauve, tout compte fait, compte sur la foi.
Mais d'une bonne partie des protestants également, d'ailleurs.
Bon, je me sens moins seul. Je ne pensais pas que l'Église réformée, les protestants, baptisaient les bébés. Enfin, moi seul.
Il y a quand même aujourd'hui 51% de catholiques en France.
Oui, d'accord.
Alors
oui,
non, non, zéro...
Quand je dis ça, ce n'est pas seul en tant que Pierre,
ouais.
En tant que catholique. Quoi.
Ouais, ouais.
Alors, quel est le rite pour vous, quand même, de baptême de votre adulte ou préadolescent ?
Quel est le rite, c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire comment la cérémonie se déroule.
D'accord. Donc, globalement, on pourrait dire que les choses peuvent être très différentes suivant qui est-ce qui le fait, si on veut allumer un cierge ou si on veut chanter, prier, dire quelque chose au baptisé, que le baptisé dise quelque chose à l'assistance ou aux parents, etc. Donc les choses sont très variables, mais il y a des éléments qui sont un peu incontournables, qui sont la prière, le fait de remettre ces choses à Dieu, la confession du baptisé, qui est le fait qu'il dise pourquoi est-ce qu'il demande d'être baptisé, la recommandation du baptiseur, qui dit, lui, dans sa responsabilité, qu'est-ce qu'il a fait avec le baptisé, et puis, peut-être aussi affirmer une chose qui peut-être vous surprendra, c'est que, à mon sens, le baptême n'est pas forcément un acte d'église, un acte de paroisse. Ce n'est pas un acte dans lequel l'église est responsable ou impliqué. C'est le baptiseur qui est responsable. Alors, quelquefois, ça se fait avec l'Église, d'autres fois, ça se fait en famille, d'autres fois, ça se fait dans une rivière avec deux ou trois personnes, et de sorte que les rites sont assez différents.
Donc, si ça se fait dans une rivière, donc vous avez besoin d'eau courante, et donc c'est une immersion, c'est une... ou autre chose.
Alors, personnellement, Je préfère et je demande que l'immersion ait lieu, ne serait-ce que pour l'avoir vécu moi-même, l'immersion est très très parlante. Quand on est immergé, il y a une image qui me reste et qui est très très touchante. Alors j'ai fait une fois un baptême par aspersion, parce que c'était dans une maison et puis ils n'avaient pas de baignoire, c'était un peu compliqué, et donc j'ai fait un baptême par aspersion.
Ah, d'accord. Oui, eh bien nous, justement, dans l'Église catholique, on évite l'aspersion parce qu'on veut que l'eau touche quand même le baptisé.
Alors,
si on asperge...
Non. Donc, quand je dis aspersion, c'est que j'ai pris de l'eau et je l'ai répandue avec une coupe
sur
sa tête.
Oui.
Mais je préfère l'immersion.
Ablution, quoi, on coupe sur la tête.
Ah, d'accord, je préfère l'immersion.
Oui, d'accord. Oui. Peut-être un peu plus solennel, un peu plus spectaculaire, le baptême effectivement donc catholique. D'abord, on peut très bien faire un baptême privé, chez soi, hein, mais ça perd sa signification et le prêtre même qui va bien sûr donc le pratiquer, en général, préférera que ce soit public, que ce soit dans la communauté. Alors il y a plusieurs, je peux vous donner un mot d'emploi. Clairement, parce qu'effectivement, ça va varier un petit peu, disons, dans le rite, pas dans le sens quand même. suivant la paroisse, suivant les individus. Donc, d'abord, il y a des personnes qui font baptiser leurs enfants à n'importe quel moment du dimanche, soit avant l'office, soit après, soit dans l'après-midi ou un jour de semaine, si le prêtre est d'accord. Donc, c'est tout à fait une relation tout à fait personnelle. Dans d'autres cas, parce que j'ai vécu pour mes petits-enfants plusieurs expériences, il y a donc dans une paroisse où la messe est célébrée, et puis à la fin, le prêtre prend le bébé et dit voilà, nous allons prendre, il le présente à la communauté, il dit voilà, on va baptiser Alexandre, puisque c'était Alexandre, il va rentrer dans la communauté chrétienne, et ainsi de suite, et vous êtes invité à y assister. En général, la moitié de l'assemblée s'en va. Hein. Ils ne connaissent pas, donc ils s'en vont. Bon, mais le geste est là, et il y a eu la présentation. Alors, en fait, et pour quelque chose de beaucoup plus officiel, eh bien, il y a d'abord l'accueil des parents du bébé et du parrain et de la marraine, parce qu'on est très prudent. On a peur que si les parents ne puissent pas, justement, comme je disais tout à l'heure, assurer leur devoir, eh bien, ils pourraient être remplacés par le parrain et la marraine. Hein. Donc, ça, ils arrivent, ils sont accueillis à l'église, le prêtre va leur demander ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Il y a un dialogue et très, très précis. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? Pourquoi frapper à la porte de l'église? Et ils vont répondre, évidemment. Alors, on le met tout de suite, Jean fait un signe de croix sur les participants. Et puis, il y a la liturgie de la parole, il peut y avoir l'homélie, c'est au cours de la messe, hein, je vous parle. Hein. Et puis, on leur demande, après l'homélie, évidemment, une prière de délivrance. Il va falloir sortir du diable et de toutes ses actions, bien entendu, avec une imposition des mains sur la tête des enfants. Et bien sûr, ce sont les parents qui répondent. Ça, vous êtes d'accord que le bébé, il ne peut pas s'exprimer. Hein. Et puis, il peut y avoir, évidemment, une onction d'huile, hein, parce qu'on est tous prêtres, rois et prophètes, n'est-ce pas? Donc déjà, il y a l'onction de l'huile. Puis, il peut y avoir aussi le geste de l'Ephphata. On ouvre symboliquement avec la salive du prêtre dans les yeux, les oreilles, les mains, et ainsi de suite.
Le geste que le Christ avait fait à l'égard du sourd, en lui disant « ouvre-toi ».
Voilà, « ouvre-toi ». Donc ce bébé est appelé à s'ouvrir, voyez. Bon, après, eh bien, ça va être le moment vrai du baptême. Hein, tout ça, c'était des préparatifs. Il va y avoir tout simplement une bénédiction de l'eau, sauf, faites attention, c'est extrêmement rare, si c'est de l'eau qui a été puisée au Jourdain. Parfois, il y a des gens qui vont en Israël, qui remplissent une bouteille d'eau du Jourdain. Alors si, disons, quelqu'un arrive avec de l'eau du Jourdain, on ne baptise pas l'eau, elle est naturellement...
On ne la bénit pas.
Mmh. On ne la bénit pas, elle est déjà bénie. Il y a la renonciation à Satan, et le parrain et la marraine, donc, disent qu'ils renoncent aux œuvres de Satan, posent des questions, effectivement, et en général, ils renoncent, sinon, c'est tout au moins à l'eau. Il y a la profession de foi, ils récitent, le prêtre leur demande s'ils croient, et c'est évidemment ce qu'on appelle le « je crois en Dieu hein, », qui est repris ensuite par l'Assemblée, hein, toute l'Assemblée. Et même parfois, on demande aussi si on veut, nous, Assemblée, les gens qui sont présents, si on veut que le petit ou la petite fille rentre à la communauté et un jour. Plus encore, on répond oui. Vous comprenez bien, c'est sûr. Et puis il y a le sacrement, évidemment, en lui-même, c'est l'immersion, dont on trempe dans l'eau, hein, et effectivement, trois fois. On va revenir peut-être tout à l'heure sur le même symbole, c'est ça être le même. On le plonge, il meurt au péché, il ressort, c'est la résurrection. Je pense que c'est pareil chez vous, l'immersion. Mais des parents prudents, on doit avoir peur que bébé prenne mal et refuse l'immersion, et c'est dommage. Et ils demandent à ce que de l'eau soit versée uniquement sur la tête, bien entendu. Il y a l'onction de crème, si on ne l'a pas déjà fait avant. Et puis, il y a la remise du vêtement blanc, parce qu'on revêt le Christ. Et en général, donc, c'est une robe blanche qu'on remet au bébé. Alors avant, c'est des magnifiques robes. Là, c'est une tenue blanche qu'on peut mettre tous les jours après. Et c'est important, parce qu'effectivement, donc, on a revêtu le Christ. Ce n'est pas uniquement, mais c'est que sa vie doit évidemment changer et vivre la vie du Christ plus tard, quand il sera capable de le faire. Et on allume effectivement un cierge, parce que le Christ est quand même là. la lumière et qui éclaire et qui doit conduire tout le long de la vie chacun d'entre nous, dont le bébé baptisé. Et on les remet aux parrains et à la marraine et aux parents aussi. D'ailleurs, ils tiennent tous les quatre le cierge qui est allumé au siège pascal qui représente le Christ ressuscité. Nous avons sur pendant le carême un cierge qui brûle pendant les offices qu'on appelle le cierge pascal. Et puis après, il y a un arc tout à fait administratif. Il y a les chants, on participe, tout le monde évidemment, on les accompagne par nos prières. Et puis à la fin de l'office, parce qu'après l'office continue, hein, c'est la consécration et l'Eucharistie. Et après, bien, les parents, les parrains vont signer le registre de baptême des enfants. Voilà ce qui existe pour l'Église catholique comme rite.
Alors on va donc conclure avec tout ça. Le baptême est un acte magnifique, une étape, un sacrement dans le sens de quelque chose dans lequel Dieu est visible et dans lequel Dieu exprime quelque chose de très profond, de très important et de très riche. Être baptisé, c'est un privilège qui est important. C'est porter sur soi la marque de la grâce de Dieu. C'est avoir sur soi quelque chose duquel on peut dire presque avec fierté, avec plaisir, avec bonheur. Oui, je suis baptisé, j'ai cette marque de la faveur de Dieu sur moi. Et voilà, on peut peut-être, pour ceux qui nous écoutent, dire si quelqu'un n'était pas baptisé, eh bien voilà, est-ce que quelque chose empêche d'être baptisé? Et la réponse, c'est qu'il n'y a rien de vraiment sérieux qui puisse empêcher d'être baptisé, si ce n'est le fait de ne pas croire dans l'œuvre de Jésus-Christ. Mais toute personne qui croit à l'œuvre de Jésus-Christ et qui n'a pas été baptisée est appelée à le faire et, comme cela a été dit, demander à quelqu'un de la congrégation, dans sa paroisse, son église, demander à être baptisé. Les raisons pour lesquelles on ne serait pas baptisé méritent d'être posées, méritent d'être aussi partagées, qu'on puisse parler de manière simple,
échanger,
en discuter avec quelqu'un, parce que raisonnablement, la grâce qui nous est donnée de cet acte important, de cet acte de proximité à Dieu, de cet acte de confiance en Dieu, est une grâce tellement importante que ça serait vraiment dommage de ne pas la mettre en œuvre. Les questions sur le baptême sont multiples. On peut avoir autant de questions qu'on est dans telle ou telle famille ou dans tel ou tel pays. Par exemple, dans un pays où il n'y a pas d'eau, hein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est baptisé avec du sable? Est-ce qu'on va prendre de l'eau? Est-ce qu'on va mettre un peu d'eau sur la tête? On voudrait être baptisé par immersion. Et comment est-ce qu'on fait quand on est nomade dans le désert et que, raisonnablement, quand il y a une oasis, on ne va pas s'immerger dedans, parce que l'eau de l'oasis, on la boit.
On la boit, oui. Donc il doit y avoir une solution, quelque chose.
Et toutes ces réalités-là sont là pour être examinées paisiblement, tranquillement. Dans le message biblique, le baptême n'est pas une contrainte, il n'est jamais une contrainte. Il ne faut pas avoir peur d'être baptisé ou de ne pas être baptisé. Ce qu'il faut, c'est avancer tranquillement avec ce commandement qui est un commandement unique. Hein, Dieu nous appelle à être baptisés une fois et de ce fait à le faire avec solennité, mais aussi avec tranquillité.
Alors vous dites on est baptisé une seule fois. Si quelqu'un qui était baptisé dans une église voulait changer d'église, il ne serait pas question d'être rebaptisé.
Alors, pour les gens qui pensent que le baptême introduit dans l'Église, alors ils vont dire oui, il faut être rebaptisé. Mais ça va à l'encontre de ce que dit Éphésiens 4, verset 4, qu'il n'y a qu'un seul baptême. Le baptême est affaire de relation à Dieu et d'obéissance, et puis aussi de, quelque part, de réception de ce cadeau, de cette grâce. Personnellement, quand quelqu'un vient dans l'Église dans laquelle je vais, et qu'il est baptisé catholique, on lui dit, mais c'est très bien,
Oui, mais je crois qu'aussi dans l'Église catholique, quelqu'un qui viendrait de l'Église réformée ne serait pas rebaptisé non plus.
Voilà.
Alors, autre question, vous parliez effectivement, malgré la vie que peut avoir un baptisé, il restera toujours baptisé. Il ne sera jamais exclu. C'est pas possible. Il a reçu son sacrement, il le garde. S'il mène une vie à l'encontre de toutes les règles chrétiennes, il reste baptisé. Ce
Eh
sera
bien,
son problème à.
objectivement, si on prend des cas d'école, quand un enfant est baptisé à 2 ans et qu'il n'aura jamais été croyant, pour moi, je ne dirais pas qu'il a eu le baptême chrétien, cet enfant-là.
Ah oui, d'accord. Maintenant, moi, je parle d'un adulte baptisé qui.
Quand quelqu'un qui est converti, qui a confessé Jésus-Christ comme son sauveur et qui est baptisé, si après il mène une vie de patachon, alors ça sera un baptisé qui aura mené une vie de patachon.
Ça le rendra.
Et il vivra de différentes manières, mais ce n'est pas tellement notre sujet, mais ça ne remet pas en question son baptême, tout à fait.
Son baptême. Donc, au dernier moment, il peut se reprendre et on le lui souhaite. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le problème du manque d'eau dans un désert. Et si ce n'est pas l'eau qui manque, mais le baptiseur, est-ce qui peut baptiser? N'importe qui dans un cas d'urgence ou dans une situation particulière?
Alors, je crois que celui qui est chrétien peut baptiser quelqu'un qui demande à être baptisé. Mais si on est seul sur une île déserte, alors là, il y a un problème
Mais si vous êtes seul,
objectif.
si vous êtes seul sur une île déserte, vous n'aurez personne à baptiser.
Non, si je suis seul et que je ne suis pas baptisé
Ah,
et que
d'accord,
j'ai
oui,
quelque part
d'accord,
la
oui, non,
conscience de devoir
d'accord.
être baptisé,
Oui.
là, j'aurai
Donc,
un problème.
un chrétien peut baptiser un autre dans une situation particulière.
C'est ce que je pense, oui.
Et puis aussi l'urgence. Je sais que souvent, les sages-femmes dans l'Église catholique avaient la possibilité de baptiser quand elles voyaient que l'enfant allait effectivement donc mourir. Hein. Et puis en cas d'urgence, disons, je crois que un chrétien peut effectivement baptiser.
Alors j'espère que ces réflexions sur le baptême pourront encourager tous ceux qui ne le sont pas à demander à être baptisés, et puis aussi encourager tous ceux qui le sont mais qui connaissent des gens qui ne le sont pas à en parler tranquillement avec eux pour en avoir quelques argumentations, et puis les aider dans leur chemin.